à Rencontres spirituelles. En ce 19 février, c'est l'anniversaire du décès en 1750 de Jean-Sébastien Bach, un organiste, compositeur, que l'on peut classer, comme j'osais le mettre sur l'horaire qui a été publié un peu partout, le plus grand. C'est vraiment le plus grand. Quand on connaît Bach, on est enchanté. Et ça me rappelle la parole d'un professeur jésuite qui disait le sourire aux lèvres dans les années 40, je crois, à Brébeuf. Un professeur très cultivé qui parlait de Bach en classe et qui disait « Ah, si Jean-Sébastien Bach n'est pas au ciel, je pense que j'aimerais mieux ne pas y aller. » Mais il disait ça, évidemment, avec un sourire aux lèvres. En voulant dire que quand on a composé, fait les œuvres de Bach, qu'il a fait, on ne peut qu'aller au ciel. Et c'est vrai que c'est grandiose, c'est merveilleux. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Jean-Sébastien Bach est né en 1685. Je vous ai dit qu'il est mort en 1750. Ça fait une vie encore assez courte, hein? 65 ans. Il est né à Eisenach. Et c'est un réformateur de la musique. Il est avec Handel à l'origine, on peut dire, de la musique dite moderne, dans un sens. Il a mené une vie très, très simple, vous allez voir, comme organiste, maître de chapelle, professeur à la cour de divers princes allemands, avant d'être nommé cantor à Saint-Thomas de Leipzig, où il est mort, c'est là qu'il est enseveli. Et une grande partie de son œuvre était destinée tout simplement à l'enseignement. C'est en somme une vie relativement simple. Et pourtant, c'est une des plus grandes vies de toute l'histoire de l'humanité. Je m'inspire d'un texte de Marcel Clément que j'ai trouvé admirable. Je vous rappelle que Jean-Sébastien Bach est mort le 29 juillet, mais comme c'est durant les vacances, j'ai pensé le faire ces jours-ci. Et lorsque Jean-Sébastien Bach est né en 1685, il appartenait à une famille qui, depuis cinq générations, se consacre à la musique. Le premier, qui s'appelait Veit Bach, V-E-I-T, ça se prononce Veit, qui exerçait vers 1597 à Weimar, la profession de meunier. Et c'est drôle, il était meunier, mais il trouvait plaisir a emporté à son moulin une sitar, puis il jouait de la sitar pendant que la meule était en mouvement. Et son fils, Hans Bach, lui, a été un musicien de profession. Il a eu lui-même trois fils qui, à leur tour, se sont consacrés à la musique et ont même composé, puis au fur et à mesure qu'ils se sont multipliés. Mais les Bach sont devenus une famille dont le nom seul résumait le métier. On savait que quelqu'un qui s'appelait Bach, c'était un musicien. Ils avaient pris l'habitude de se réunir au complet une fois l'an pour faire de la musique. Et l'on rapporte qu'un jour, dans la jeunesse de Jean-Sébastien Bach, où 120 hommes du même nom pouvaient se retrouver tous musiciens. Ça me rappelle les soirées dont ma mère me parlait au début du siècle, dans leur maison au coin de Rachel et de Relais, au pied des clochers de l'église Saint-Jean-Baptiste. Mais il y avait plus de 100 personnes qui venaient à la maison de mes grands-parents, les Terreaux, du côté de ma mère. Et puis, ils étaient presque tous musiciens, ça jouait de la musique. Alors, il y avait là deux pianos, etc. Et ils faisaient de la musique. C'était les coutumes du temps, hein. Tout ça est bien disparu. Or, si les 120 musiciens du nom de Bach qui pouvaient se réunir dans la jeunesse de Jean-Sébastien étaient inégaux, pas tous aussi bons les uns que les autres, néanmoins, tous avaient apporté, en naissant, on peut dire, l'amour de la musique. Ou bien toujours, ils étaient assez dociles dans leur attention pour sentir tout ça éclore en eux-mêmes. Et la famille était remplie de cette musique. Tous avaient ensuite accepté d'y consacrer leur vie. Ils avaient contribué à illustrer le nom de Bach. Et la récompense naturelle de cette fidélité séculaire fut quoi, hein, vous le devinez bien, la naissance de Jean-Sébastien Bach. Cet enfant a été, dès sa naissance, on peut l'affirmer, habité par l'âme des Bach. Spontanément, il a bénéficié des acquisitions techniques de ses ancêtres. Et Jean-Sébastien Bach a ajouté aux dons les plus rares. et les plus brillants de l'hérédité, la puissance de sa volonté. Le témoignage le plus ancien qu'on en possède doit être rapporté au séjour qu'il a fait chez son frère aîné, Jean-Christophe, à Ordruf, après la mort de leurs parents. C'est une histoire sympathique. Jean-Sébastien, qui devait avoir 12 ou 13 ans, quoi. L'âge de mon petit-fils, quoi. C'est fin à cet âge-là, à 12, 13 ans. C'est merveilleux. Il se voit refuser un recueil des pièces pour clavecin des maîtres les plus célèbres de l'époque. Alors, l'armoire où Jean-Christophe, son frère, rangeait cet ouvrage n'était fermée que d'un treillis, il pouvait voir. Hein? Et Jean-Sébastien a pu passer sa petite main à travers le grillage, rouler le cahier qui n'était que broché, puis le copier de nuit à la clarté de la lune. Moins heureux que Racine, qui avait eu le temps d'apprendre par cœur les amours de Théagène, dit-on, et de Chariclée dans le texte grec avant de se les voir confisquer, mais Jean-Sébastien Bach, lui, s'apprêtait seulement à faire usage de son petit vol, son petit larcin, lorsque son frère, l'ayant découvert, le lui a enlevé. C'est un chagrin d'enfant, de la race de ceux qui choisissent les efforts les plus longs et les plus constants. Et il n'admet pas qu'au terme d'une semblable patience, là, il avait vraiment travaillé, la récompense ne lui soit pas donnée. Hein. Il ne l'a pas pris. Mais quand même, on dit que son cœur est demeuré pur de tout ressentiment à l'égard de son frère aîné. Il avait déjà une bonne qualité de cœur. Mais plus tard, il va faire des colères. Plus tard, il va devenir plus, même assez violent parfois. Car c'était un tempérament assez coléreux que Bach avec l'âge. Il est tout entier tourné vers la musique. Son éducation ne délaisse pas pour autant sa formation intellectuelle, parce qu'au lycée d'Ordruf, là, il apprend le latin, l'histoire universelle, la géographie, il étudie un peu le grec. Mais il s'adonne surtout à la théologie. Hein. Il était luthérien, n'oublions pas, il n'est pas catholique. Hein. Et pour la théologie, qui est semblable, en fait, à celle de l'Église catholique, très, très près, il va garder un goût prononcé. À cette époque, les luthériens étaient moins protestants qu'ils ne le sont devenus. Hein. Après Ordruf, c'est Lunebourg, où il va, en 1700, à 15 ans, pour y finir ses classes à l'école Saint-Michel. Lunebourg, c'est l'accès dans une société là, vouée presque exclusivement à la musique. C'est le contact avec les maîtres italiens, français. C'est surtout l'influence de Georges Böhm, organiste à la Johanniskirche. Et ces années d'apprentissage et d'études se confondent avec les premiers gains d'argent. Là. À l'école Saint-Michel, c'est en qualité de soprano que Bach reçoit un petit salaire. Lorsque sa voix va changer, bien c'est son violon qui va subvenir à ses besoins. Alors, il grandit toujours, et ses études terminées, bien il est admis parmi les musiciens du duc de Weimar. Il servira de suppléant à l'organiste de la cour. C'est de ce titre d'ailleurs qu'on le salue. Lorsqu'en juillet 1703, bon, il a 18 ans, il est prié d'inspecter et d'inaugurer l'orgue construit à la nouvelle église d'Arnstadt. Le mois suivant, il accepte l'offre qu'on lui a faite de rester titulaire de cet instrument. Et on peut alors dire que un Bach de plus bien, est parvenu à s'établir dans le métier de famille. Comme je vous ai dit, il a 18 ans, là. Alors, il est organiste à Arnstadt, à Weimar, à la cour du prince d'Anhalt-Köthen. Enfin, il est cantor à Leipzig, comme je vous ai dit au tout début, et tels sont les quatre postes qu'il va remplir au cours d'une carrière de plus de 45 ans. Bach n'a pas été, on peut dire, vraiment un enfant terrible. C'est, grosso modo, là, un homme sensé, et puissant, oui, puissant, on le voit par ses portraits, et équilibré. Il dédaigne tout l'appareil tabageur et bruyant qui, 50 ans plus tard, là, va devenir l'espèce de monde obligatoire du génie. Quand un génie se monte à l'horizon, il déclenche tout un monde de troubles et de problèmes. Non, c'est pas son genre, c'est un fonctionnaire, lui. Il redoutera pas de l'être, d'ailleurs, comme on pouvait l'être auprès d'un roi ou d'un prince. comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange ou Racine l'avaient été. Ou même, vous savez, comme Paul Valéry, plus près de nous, a voulu l'être, en confessant que toutes ses œuvres, Paul Valéry, avaient été des œuvres de commande. Hein? Ce Valéry que j'ai tant aimé lire à 17 ans, je prenais des notes, j'étudiais Valéry avec un plaisir. La langue, la beauté de la langue. Bach ne cherche pas dans des expériences extérieures à lui-même son inspiration. Il n'imagine pas même de faire appel à des sensations exaspérées pour soutenir une inspiration qui est déjà puissante. Non, il n'est pas comme d'autres qui ont une inspiration impuissante à s'engendrer elle-même. Non, non. C'est naturel, ça coule. Jusqu'à sa mort, hein. Il est libre, il est serein. Il domine de toute son intelligence puis de tout son équilibre les plus puissants de ses compositions. Il n'a pas fait son art l'occasion d'un cabotinage à demi-sincère, c'est pas son genre du tout. En devenant organiste à l'église d'Arnstadt, Bach n'abaisse pas son génie. Il lui donne le support, la stabilité, l'ordre, en un mot, qui peut le soutenir. Puis loin de l'asservir, ça le libère. Bach fait de la musique un service. Hein? Je le répète, Bach fait de la musique un service. Avec des chances diverses, il faut le reconnaître. Ses supérieurs le tracasseront parfois. Ses élèves, des incultes et indisciplinés souvent. Ça met sa patience à rude épreuve. Il y a eu des moments difficiles avec certains de ses élèves. Et puis, je vous ai dit, il est assez coléreux des fois. Hein? Mais ce seront là que de brèves querelles, on peut dire, sa volonté va triompher toujours. Et auprès d'un prince qui sincèrement est pris de musique ou bien de disciples attentifs et des bons élèves, là, il va être dans la plénitude de son rôle. C'est à ce moment-là que Jean-Sébastien Bach va apporter son génie à leur élévation, à leur formation, dans le plus entier don de soi. Il se donne. Le service des jeunes talents qu'il éveille, service des princes auxquels il offrira ses œuvres, service de Dieu, enfin, en quoi il voit la nature même, l'essence de son art. Car c'est le service de Dieu, hein? C'est l'essence de son art. Et de même que dès l'âge de 18 ans, il est entré en musique, on peut dire, avec le même recueillement qu'il aurait apporté s'il était entré en religion, s'il avait été catholique, eh bien de même, sa règle de vie, une fois établie, on ne verra plus en danger jusqu'à sa mort. Bach est tenace, fidèle, mais je vous le répète, d'un caractère parfois difficile, et cela paraît dans certains de ses portraits. Et c'est bien le même front haut, un front haut, large, dégagé, avec sa puissance sereine, le même nez long, aux narines, là, fortement marquées, plein d'intelligence et de bonhomie, la même bouche horizontale, ce menton assuré. Il y a des signes d'équilibre volontaire, mais capable de colère. Les traits sont un peu émaciés, c'est le jeune organiste d'Arnstadt, mais c'est un peu épaissi et accusé chez le vieux cantor de Leipzig. Puis le regard de Jean-Sébastien Bach gagne avec les années en feu intérieur, où se mêlent des sentiments divers, par exemple. Et les années n'ont fait qu'approfondir une vie intérieure, une spiritualité toujours plus riche, et qui anime aujourd'hui encore la plus belle musique du monde. Dans un ouvrage, Jean-Sébastien Bach, l'œuvre d'orgue, justement, du père François Florent, dominicain, préfacé par Marcel Dupré et paru aux éditions du Cerf il y a bien longtemps, très longtemps, il écrit dans son avant-propos « Ce Dieu est un homme, non pas le colossal brave homme de Vidor, mais un homme très humain, avec ce qu'on peut imaginer et de plus opposé à une majesté surhumaine. L'impressionnabilité, l'humeur, les réactions disproportionnées. Un artiste, au bout du compte, comme les autres. » Le père Florent essaie de nous montrer combien Bach était un artiste comme les autres, dans un sens, sur le plan humain, il avait ses défauts, mais il avait cette foi profonde, dont nous parle d'ailleurs sa femme, Anna Magdalena Bach, dans la petite chronique. Je ne saurais trop vous recommander de lire, si vous voulez connaître Bach, la petite chronique d'Anna Magdalena Bach. C'est édité un peu partout, ça, mais c'est toujours réédité. C'est un charme, c'est une joie que de lire ça. Cette femme aimait tellement son mari. Or, de la vie personnelle de Jean-Sébastien Bach, on doit retenir la leçon qui se dégage. C'est la tendresse profonde de Bach pour sa compagne, justement. La chaleur de cette tendresse, l'accord qu'elle réalise avec son œuvre. En premier mariage, Jean-Sébastien Bach avait épousé sa cousine, Maria Barbara Bach. Mais elle meurt prématurément. Elle lui laisse la charge de plusieurs enfants. Il ne peut pas songer à les élever seul. Puis c'est un homme trop solidement réaliste pour accepter l'idée du célibat, alors il se remarie. Et voici ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la petite chronique d'Anna Magdalena. Voici ce qu'on raconte. Des fiançailles merveilleuses de Jean-Sébastien et d'Anna Magdalena. C'était pendant l'hiver de 1720, au cours d'un voyage en Hambourg. Anna Magdalena, qui était très religieuse, a eu l'idée d'entrer à l'église Sainte-Catherine. À peine la porte entrouverte, et le regard mal habitué à l'obscurité silencieuse et solitaire de la grande nef, voilà qu'une musique étincelante anime soudain l'église, comme d'une lumière d'or et de cristal. Douce et forte, la musique de l'orgue s'élève, calme et sûre, apaisante et bouleversante. Agenouillée, l'âme en extase, la jeune Maria Magdalena se perd dans cette méditation, située hors du temps et de l'espace. Les résonances profondes et lentes de l'instrument se laissaient tour à tour résumer et élargir, selon le dessin ferme d'un rythme plus clair et plus rapide. Et finalement, cette ronde, assourdie et glorieuse, se termine dans l'éclatant rayonnement du ciel entrouvert et aux échos apaisés toujours plus lointains qui rendent l'église à son recueillement. Anna Magdalena se ressaisit. Elle avait entendu le plus beau langage qui fût jamais parlé au monde. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'année suivante, Jean-Sébastien Bach, qui ne sait rien de tout cela, la demande en mariage. Il a 36 ans et elle seulement 21. Elle n'ose imaginer, tremblante et rouge de plaisir, la réalisation de ce rêve qu'elle garde depuis un an dans son cœur. Et jusqu'à la mort de son mari, oh, le récit de la mort dans la petite chronique, c'est de toute beauté, mais elle va demeurer dans l'émerveillement. Elle va entourer son mari d'une affection aussi profonde et pure, comme on peut le constater d'ailleurs en lisant la petite chronique, qui je ne peux pas vous conseiller peut-être un plus beau livre à lire aujourd'hui. Il est un trait de caractère de Bach qui commande tous ses actes, c'est l'idée qu'il portait de lui-même. Au parti pour faire de la musique, son métier, il n'y avait pas d'idée préconçue de son génie. Il s'astreint seulement à faire tout ce qu'il peut le mieux possible. En somme, on pourrait dire à se satisfaire lui-même, intelligemment, quoi. Il est très exigeant. Hein? On peut dire que son esprit est trop attentif, son jugement trop sûr pour ne pas découvrir bientôt la supériorité de son art, mais il est remarquable qu'il ne s'en attribue le mérite qu'en raison de son travail et jamais de ses dons. Pourtant, à mon avis, il s'agit bien de dons. Hein? Et qui dit dons? Dit donateur. Et qui dit donateur, dit Dieu, à mon avis. Et à quiconque y manifeste de l'admiration, il se borne de répondre qu'avec autant de travail, on peut faire aussi bien que lui. Il est très probable qu'il le pense. C'est un travailleur considérable. Il n'arrête jamais. Les louanges, il ne les accepte que de la bouche de personnes autorisées. Rien ne l'irrite plus que les félicitations de gens qui savent que l'on doit l'admirer puisque les autres l'admirent, mais ils n'ont rien compris. Puis, ça le fatigue. Et c'est là tout son orgueil. Mais cet orgueil n'est qu'un aspect de son amour de la vérité. Le même amour de la vérité qui se traduit en humilité lorsqu'il répète qu'il joue toujours comme si le plus grand musicien du monde était là pour l'écouter, et il se fâche lorsqu'on lui dit que c'est toujours le cas. C'est probablement des mystiques qui veulent dire que le plus grand musicien du monde, qui est Dieu, l'écoute. Mais lui, il n'y pense pas, peut-être. En somme, il est pur de toute vanité, mais Il est entouré de respect et d'hommage. Il rapporte tout à la peine qu'il a prise, au travail, à la volonté qu'il a déployée, mais jamais à son génie, dont il attribue quand même, on le voit de temps en temps, il attribue tout son génie à Dieu. Il le sait le reconnaître à certains moments. Aussi, on ne le voit jamais réclamer dans la société une autre place que celle qu'il occupe. Il n'y a pas de prétention. C'est celle d'un artiste soucieux de bien faire son métier. C'est tout. Je le répète, il n'est pas prétentieux. Cette humilité inspire le choix de son épouse au même titre que ses autres décisions. Il est loin de rechercher, comme fera Beethoven, dont je vous parlerai le mercredi saint, en pleine semaine sainte. Beethoven, qui était tout encombré de son génie, dont il s'est fait une espèce d'idole, mais quand même, c'était un grand croyant. Puis il y avait l'amour qu'il voulait développer dans une aristocratie dont il ne fait pas partie, puis finalement mort dans la plus douloureuse solitude. C'est pour ça que je le mets en pleine semaine sainte, vous verrez pourquoi. Bach, lui, avec sa mesure accoutumée, bien, choisit tout naturellement sa première femme au sein d'une famille de musiciens, la sienne, et c'est une Bach. Et puis, en second mariage, il épouse la fille d'un trompettiste à la cour des Weissenfels, et c'est Anna Magdalena Wülken. Aucune disproportion, aucun rêve de fausse grandeur dans ces unions-là. Hein? C'est probablement pour cela qu'elles seront heureuses, et même fécondes. Féconde d'abord pour l'homme, Bach. Rien ne peut peindre la paix que Bach a trouvée jusqu'au jour de sa mort à son foyer. La sérénité qui a été la sienne, c'est en fait le fruit de ce que j'appellerais la douce contrainte qu'une tendresse mutuelle inspire aux époux, là, aux vrais époux, c'est une douce contrainte. Bach, et c'était sans doute son travers le plus grave, était sujet, je vous l'ai dit, à de violentes colères qui apparaît dans certains de ses portraits, surtout les derniers. Ce colosse dont l'autorité naturelle donnait toujours l'impression qu'il était plus grand et plus corpulent que ceux qui l'approchaient était un véritable bac en cela. Et l'injustice puis la bassesse lui inspiraient souvent une profonde irritation. Il n'endurait pas ça. Mais au contraire, encore de Beethoven, qui rompt, lui, avec ses meilleurs amis, et se traînent à leurs pieds trois jours après, Bach, lui, s'applique à se contenir. Et le plus souvent, il y parvient. Comme Saint François de Sales. La jeunesse, la fraîcheur de son épouse, relâche son cœur dès qu'il entre chez lui. Le sourire détend son visage. L'équilibre, un instant compromis, se rétablit dans son cœur. Pour le musicien aussi, cette union était féconde. Et ici, c'est avec plaisir qu'on peut admirer cet esprit immense qui est exempt de préjugés au point d'avoir eu du génie sans pour cela tromper sa femme. Ça semble très rare chez les grands artistes. Je crois qu'il a été fidèle. Il l'a été par l'esprit, par le cœur, autant que par les sens. Et c'est cette fidélité qui donne aux accents d'amour de sa musique une pureté, une chasteté incomparable. Le prince de la musique tenait tous ses serments. Même ses serments d'amour, et quel privilège, pour ainsi dire, miraculeux, lui a permis de ne pas souffrir de la lassitude qui s'installe souvent là, chez les époux, chez les épouses, qui se fatiguent l'un de l'autre, sont incapables de retrouver la poésie des premiers sourires. On ne peut pas proprement parler, nommer cela un privilège. Le bonheur trop rare a été le produit de beaucoup de vertus, de sagesse et d'art et de foi. C'est ça un vrai mariage. Je continue maintenant à vous parler de Bach, qui ne recherche aucune excitation dans sa vie vraiment. Ce qu'il recherche, c'est l'ordre, tout simplement. Il a eu d'ailleurs de très nombreux enfants, plus de 20. Ça suffit à lui fournir l'élément de ses compositions. Vous direz, comment pouvait-il trouver de l'ordre au foyer avec 20 enfants? Eh bien, ça se faisait. La chaleur de son amour n'a pas besoin pour jaillir et s'exprimer de cette espèce de découverte superficielle de nouveaux visages qui est très à la mode aujourd'hui. Recherche de nouveaux parfums. Je blague un peu. De nouvelles aventures, quoi. La découverte d'une femme ne s'achève pas pour Bach dans l'orgueil d'une petite conquête très brève. C'est là encore en faisant alliance avec le temps, qu'il enrichit sa découverte, que jamais il ne se rassasie du miracle toujours renouvelé de ce don de soi, de sa femme qui était extraordinaire. Beaucoup d'humilité, d'indulgence et d'amour cimentaient son bonheur. C'est ça. Il faut lire, je vous le rappelle, la petite chronique d'Anna Maria Magdalena Bach. Anna Magdalena Bach, sa femme. Ce fut en effet le miroir de la musique, où se reflétaient leurs deux esprits, un peu comme dans ces inventions à deux voix, que de leur union se fait une communion si complète. Toujours Anna Magdalena a voulu accéder à une compréhension plus profonde de l'œuvre de son mari. Et il s'y est prêté, lui, de la meilleure grâce. Dès la première année de leur mariage, il lui offre un petit cahier relié en vers, dans lequel il écrit de temps à autre des pièces pour clavecin composées à son intention à elle. Il en augmente la difficulté, cependant que l'inspiration de son amour anime les progrès de son élève, et l'élève, sa femme, y prend tant de joie qu'elle veut même s'essayer à l'orgue, et patiemment, attentive et tendre, perdue sur l'énorme instrument, elle écoute les leçons qu'il lui donne avec sa douce patience de bon géant. Et l'expérience quotidienne, toujours enrichie et renouvelée de cette tendresse conjugale, donne à Jean-Sébastien Bach l'exacte profondeur d'une sensibilité profonde, là, vraiment, et juste, parce qu'il a su refuser les tentations qui auraient pu disperser tout son être, des tentations qui l'auraient livré à des agitations sans contrôle de ses passions puis de ses sens, mais il a conquis un recueillement dans un vrai mariage, une liberté spirituelle non pareille. On grandit dans un mariage chrétien. On se rapetisse et on descend dans les sottises qui sont à la mode aujourd'hui. Ça contribue à son génie, ça. Ça lui donne à Bach cet équilibre au sein duquel seulement on peut parler de beauté. Féconde, enfin, les unions de Bach qui lui ont donné 20 enfants, d'autres 10-23. Ce furent ses plus grandes douleurs que la mort à l'âge le plus tendre de 7 d'entre eux. Mais combien est chaude et exaltante quand même l'atmosphère familiale où Jean-Sébastien Bach apparaît aussi bon père qu'il est bon époux. Son fils aîné, son préféré, Guillaume Friedman, initié de bonne heure à la musique, va passer plus tard pour le plus grand organiste, le plus habile fugiste et le plus savant musicien de l'Allemagne après son père. Improvisateur merveilleux, il a laissé plus d'une centaine d'œuvres vocales et instrumentales pour le concert ou l'église, dont une grande partie est conservée en manuscrit. Et derrière lui, ce sont trois autres fils de Jean-Sébastien Bach qui vont s'illustrer dans la musique. Carl-Philippe Emmanuel et Jean Chrétien, oh, ne pas confondre avec notre premier ministre, qui, plus éloignés de la technique de leur père, emploieront toutes les ressources de leur imagination à la création de formes modernes. Jean-Christophe Frédéric, qui, comme Guillaume Friedman l'aîné, s'inspirera plus fidèlement du génie de son père. Il n'est pas jusqu'aux filles qui, spontanément, ne restent attachées à la vocation familiale. Première mariée, c'est Jean-Christophe Atnicole, le disciple préféré de Bach, qui va épouser Élisabeth. À la source des conquêtes les plus naturelles et les plus difficiles de l'homme, un cœur fidèle, une âme sereine, Jean-Sébastien Bach avance sa vie et son œuvre, offrant l'une et l'autre à Dieu, mais avec un unique acte d'amour, car sa foi en Dieu est immense. On connaît le mot de Goethe sur la musique de Bach. Hein? Il témoigne de l'aptitude des mots à traduire ce qu'il y a d'intelligible dans l'art. Voici ce qu'il disait, Goethe. « Entretien de Dieu avec lui-même avant la création. » C'est une façon de concevoir la musique de Bach la plus grande. « Entretien de Dieu avec lui-même avant la création. » En vérité, est-ce que c'est bien cela que signifie la course sensible puis intelligente des notes si distinctes et si pleines de sa musique comme ce qu'on vient d'entendre? Une chose est certaine, l'œuvre de Jean-Sébastien est d'un bout à l'autre le message de la victoire de l'ordre sur le chaos. À ce titre, elle est moins indigne de la grandeur et de la souveraine majesté de Dieu. Mais la musique de Bach porte en elle une autre vertu. C'est Marcel Clément qui dit à ne considérer que l'équilibre qui la caractérise. On risque en effet de n'y voir comme Goethe que la perfection de Dieu en soi-même se pensant. Dieu qui se pense lui-même. Et Bach n'aurait sans doute pas admis cette louange démesurée pour une simple créature. On risque encore de n'y voir, comme certains adversaires aveugles du classicisme, que l'expression du triomphe de la raison humaine sur la nature, c'est-à-dire un équilibre à la mesure de l'homme, un esthétisme grec, quoi. Cet esthétisme amoureux des belles proportions, qui condamne dans une même répulsion les profonds élans vers l'infini et les dissonances de l'indéfini. Or, Bach ne se fait pas passer pour Dieu. Pas plus qu'il ne refuse Dieu ou le nie en instituant la perfection dans ce monde. Sa position est plus complexe. Pour la définir d'un mot, elle est parfaitement chrétienne. C'est une erreur des romantiques que cette conception qu'ils se font de l'art classique. Ils imaginent la vie comme un combat contre la raison. Faculté décharnée et la passion riche de sève et de vie. C'est toujours la mode aujourd'hui dans notre théâtre, dans nos chansons, dans nos choses. Il faut chanter l'adultère, les passions déréglées, les choses abracadabrantes. Tout ça fait le cœur de tellement de grandes œuvres. Et c'est vrai que j'aime souvent ces grandes œuvres, mais mon Dieu, comme j'apprécie la paix, la sérénité et la profondeur de Bach. Les romantiques considèrent le triomphe de la raison comme l'avènement de la sécheresse. C'est faux! Loin d'être une lutte sans merci, fruit d'une opposition inconciliable, l'art classique m'apparaît, moi, comme un effort de composition entre les différentes activités. La raison, loin de refuser l'existence au sens puis aux passions, s'applique à leur meilleur développement. C'est ça, comme dans Grégorien. Simplement, elle recherche leur vraie fonction. Loin d'étouffer l'amour humain, elle le rend à son serment spontané, qui est aussi sa plus haute destination, la fidélité. On n'en parle plus de la fidélité, mais un couple qui se fait ce serment et qui est fidèle, quelle grandeur et quelle beauté, comme chez Bach et Anna Magdalena. Loin d'ignorer les profonds secrets, immenses élans de la sensibilité qui dépassent l'homme et tour à tour le terrasse et le transporte, la raison classique les applique au seul objet auquel leur nature même les adresse, c'est-à-dire à Dieu. Qu'on pense aux nombreuses cantates de Bach. C'est pourquoi on ne saurait, à son propos, parler d'un entretien de Dieu avec lui-même, comme le l'a dit Goethe. Plus certainement, c'est un dialogue, la musique de Bach, un dialogue de l'homme avec Dieu. Oui, c'est un dialogue de l'homme avec Dieu, et pour être plus accessible, cette conversation n'en est pas moins attachante. Au contraire, cette idée de Bach médiateur, par le moyen d'un art parfaitement classique, entre la créature et son créateur, et de toute façon celle qu'il a lui-même considérée comme vraie, et dont témoigne d'ailleurs son souci constant. C'est un musicien de métier, Bach. Il ne cesse jamais d'élever, d'ennoblir sa fonction, ou mieux, son service. Son service, comme le pape qui est le serviteur des serviteurs de Dieu. Le service, c'est la plus grande chose. Jésus nous l'a montré le soir du Jeudi Saint, en s'agenouillant devant ses apôtres et leur lavant les pieds. Bach est au service de la beauté qui est Dieu. Mais d'abord, pour quiconque serait tenté de classer Bach, de l'enfermer dans une définition purement religieuse, insistons, une fois encore, sur le réalisme de cet enfant de la terre, éperdument épris de son épouse admirable, père d'une vingtaine d'enfants, auteur d'exquises cantates profanes, où il chante l'amour humain avec la plus délicieuse poésie. Évoquons la Verve aussi, les pièces satiriques là, qu'il commet à l'image du poème du Quinquina de La Fontaine ou du Lutrin de Boileau, ou la cantate au café que j'ai écoutée je sais pas combien de fois, j'aimais ça. Il avait composé ça à la suite de la découverte du café à Vienne quand les Turcs se sont retirés. C'est là la découverte du café en Europe. Puis la querelle de Phébus. Un homme complet, Bach n'ignore pas plus le désir ou la tendresse que la gaieté. C'est un esthète. C'est par pure virtuosité qu'il écrit l'offrande musicale, le titre de cette magnifique émission du mardi soir à 9h à Radio Ville-Marie. Écoutez-vous ça, le mardi soir à 9h? Ah, mon Dieu, l'offrande musicale avec Jean-Pierre Noiseux. C'est lui qui choisit la musique de cette émission. Rencontre spirituelle. L'offrande musicale, qui est une pièce de circonstance dédiée à Frédéric. À chaque sorte d'inspiration, Bach compose dans le langage qui convient, toujours avec génie. Mais les plus humains, les plus laïcs de ces thèmes, s'insèrent toujours tout naturellement, dans le plan chrétien et même sous l'invocation divine. Et comme par-dessus tout, Bach est habité par le besoin de l'absolu, la soif de Dieu. C'est vers lui, vers Dieu, que toujours il se retourne. Et son passage sur terre n'a pas été autre chose qu'un long et constant service. Service du fidèle, d'abord, de son prochain, dans le service toujours plus total de Jésus. Ce n'est pas, tout simplement, en tant que musicien, ni encore avec le seul souci d'assurer la vie de sa famille, qu'il remplit ses fonctions de cantor à Leipzig. De ses fonctions, il se fait une idée toute vivante. Il les assume avec piété. Et cet orgue magnifique, remis à neuf 2 ans avant son arrivée, ce n'est pas pour distraire le peuple qu'il en joue, c'est pour son édification puis son recueillement. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur le jeu de l'organiste, mais de guider cette attention vers la prière et de l'y maintenir. Pour atteindre ce résultat, ben, la modestie de l'organiste, ça suffisait pas. Il fallait le génie du Créateur, Créateur de rythme et d'harmonie. Et c'est là, peut-être, que tient ce qu'il y a de plus rare, de plus inaccessible, de plus merveilleusement précieux dans la musique de Bach. Seule, parmi toutes, elle est parvenue à ce miracle d'inspirer non pas la sagesse, mais mieux encore à la lettre, elle donne la foi. Et voici qu'il y a des gens, quand on pense à Bach, là, des gens que je connais qui ils sont amoureux de musique, bon, ils aiment l'espèce d'ingéniosité des inventions rythmiques de Bach, puis la perfection technique de ses compositions, puis l'originalité de ses mélodies, puis ils vont vanter l'unité apportée dans l'héritage des devanciers, oh, la richesse du contrepoint. Puis ils vont montrer que dans cet art se résume tout le passé puis tout l'avenir. Bon, il y a d'autres personnes qui sont uniquement soucieuses de poésie. Ils vont s'attacher là, à la courbe délicate et précise, nuancée, puis exacte, parfaitement intelligente, que dessine la musique de Bach. Puis ils vont se contenter d'en jouir en simples amants de la beauté. Bon, je les blâme pas. Mais à qui veut pénétrer ce qu'il y a de plus profond chez Jean-Sébastien Bach? À qui veut comprendre cette invraisemblable pureté de ses notes? Cette pureté dans la richesse? Cet équilibre dans la passion qu'on ne trouve nulle part ailleurs, faut chercher non pas dans les secrets de la technique musicale, non pas dans les jouissances superficielles de l'esthétique, mais dans l'homme lui-même. Riche de toutes les passions, de tous les désirs, de toutes les ambitions, de toutes les douleurs, il les exprime avec un égal réalisme, mais sans jamais que sombre la raison. Rien au monde, sans doute, n'atteint la puissance d'un tragique si pur, de sa passion, selon saint Matthieu, que j'ai tant écouté dans ma jeunesse. Oh mon Dieu, si je ne l'ai pas écouté 100 fois, je ne l'ai pas écouté une fois. Je la savais presque par cœur. J'y ai même joué, moi, jeune garçon de 16-17 ans, j'y ai joué le rôle de Malchus, celui qui se fait couper l'oreille par Saint-Pierre. J'avais joué ça à l'Ermitage, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, en 1943 ou 1944, sous la direction de Wilfrid Pelletier. Que de beaux souvenirs de jeunesse. Et c'est le teint cendré et le visage couvert de larmes que Bach en a composé le solo d'alto, là, à Golgotha. D'autres ont pleuré depuis en composant. Mais sur les passions romantiques d'un moi tout gonflé de son importance, un moi qui crie sa défaite, comme le monde est loin de Jésus-Christ. Souvent, mais pas Bach. Bach, lui, pleure sur la passion de Jésus. Et cette passion-là, c'est une victoire. C'est dans la mesure où il communie à son tour, dans la plus haute souffrance du monde, que sa sensibilité se fait si pure, que son âme devient transparente, que sa musique, née de la source la plus secrète de son adoration, s'élance, monte toujours plus ample et claire vers le ciel. La puissance tragique de Bach On la retrouve dans la complaisance avec laquelle il s'arrête à l'idée de la mort. Que de cantates sont par lui consacrées à ce thème, où se peint toute la détresse de l'homme. Pensez à « J'avais beaucoup de tristesse » du fond de l'abîme, tant d'autres où il peint l'infirmité de la condition humaine. Ces cantates-là en témoignent. Cependant, il ne semble pas que, comme le pense Albert Schweitzer, Bach ait été, comme tous les mystiques, obsédés par le pessimisme religieux. Non, comme tous les mystiques, au contraire, il se perd dans la contemplation de Jésus, source incessante de joie. Bon, je vous le répète, comme tous les mystiques, au contraire de ce que dit Schweitzer, il se perd dans la contemplation de Jésus, source incessante de joie. On n'imagine pas qu'un amour aussi profond, pétri d'autant de sacrifices, puisse enfanter le pessimisme. Voyons, qui donc peut ravir la joie parfaite de celui qui l'a atteinte, parce qu'il a tout donné? Quand on aime Jésus, on a tout. On a la joie, et la joie mystique de se donner à Dieu, de connaître avec les belles illuminations de la certitude qu'en lui, en Jésus, réside toute beauté, toute vérité et toute vie. Voilà comment se transfigurent toujours les tristesses de Jean-Sébastien Bach. Ainsi se consolait sa profonde douleur après la mort d'un enfant. Ainsi, peu à peu, se métamorphosent ses cantates, si sombres qu'en soit le point de départ. Ainsi s'explique que le plus exact réalisme comporte le plus raisonnable équilibre, le plus raisonnable équilibre. Bach demeure toujours, toujours, toujours dans la vérité de la vie rachetée, pour qui peut se offrir par le sang, l'âme, l'amour de Jésus, la rédemption. Il en peint la douleur sans s'y abandonner, car son esprit toujours serein croit en la résurrection. Quand viendra le soir de ma vie, que ma carrière ici-bas touchera son terme, Dieu me délivrera le dernier sur qui s'ouvre le ciel. Ah, si dans sa clémence il m'accorde ce don, je n'ai besoin de rien d'autre. Toute sa musique est là, hein? Et c'est pour cela seulement qu'elle domine toute autre musique. Expliquer comment, s'adressant tour à tour au corps, au cœur et à l'esprit, elle contribue par une efficacité ineffable à rafraîchir, à purifier, suivre l'insinuation secrète de ses rythmes, de ses notes merveilleuses dans l'art, serait autant de vaines tentatives. Le mieux, après l'avoir découvert, est de s'en enrichir. La musique de Jean-Sébastien Bach, éternellement vivante, nourrie, oserait-on presque dire, de la grâce de Dieu, nourrie de la grâce de Dieu. Elle appartient, selon l'histoire, à la première moitié du XVIIIe siècle, et peut-être ce retard s'explique-t-il par le progrès un peu lent de la technique musicale. Toutefois, selon la spiritualité, puis la richesse, puis l'équilibre de cette totalité en Dieu qui marque le christianisme, la musique de Jean-Sébastien Bach appartient au Moyen-Âge, à cet immense XIIIe siècle où la sainte et benoîte figure de Jean-Sébastien Bach ne déparerait pas entre Saint-Louis et Saint-Thomas, sous les voûtes là, ciselées de la Sainte-Chapelle. C'est alors vraiment que le chantre de Jésus trouve sa place. Homme de métier parmi des hommes de métier dans la cité chrétienne. C'est alors que sa musique, haute et sonore dans les cathédrales, agenouillée, bien plutôt qu'égarée dans les salles de concert, trouve sa véritable vocation. C'est dans les cathédrales qu'elle est belle, et belle et très belle, sa musique. C'est alors que le contour des fugues prestigieuse dans l'âme du peuple de foi, réalise son projet mystique de médiation entre l'homme et Dieu. La musique de Bach, c'est l'entretien de Dieu avec le monde après la résurrection. Mon cher Bach, puissiez-vous être au ciel avec Maria Magdalena. Ce fut le soir, dit Maria Magdalena, du 29 juillet 1750 à 8h15 qu'il mourut. Il avait 65 ans et le vendredi matin, son service funèbre fut célébré à l'église Saint-Jean de Leipzig. Eh oui, il est mort, mais il est vivant plus que jamais. Et si vous allez à Leipzig, c'est sur C'est là que la dépouille mortelle de Jean-Sébastien Bach repose dans l'église Saint-Thomas, dont il a été le cantor pendant 27 ans. À deux pas de l'église, on trouve le centre de recherche sur Bach, ainsi que le musée et les archives. Il y a aussi à Leipzig la Neues Gewandhaus, une nouvelle salle de concert pouvant accueillir près de 200 spectateurs, auxquels est attaché un orchestre réputé qui joue du Bach.